Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Serge Abad Gaillardot.
Bonjour Nathalie, bonjour. Alors, également à tous vos auditeurs.
On vous retrouve aujourd'hui et puis demain et jusqu'à la fin de la semaine avec beaucoup d'auditeurs vous connaissent. Certains vous ont peut-être suivi même en conférence. On peut vous retrouver aussi avec des conférences sur la chaîne YouTube et puis de nombreux ouvrages, puisque celui que je tiens entre les mains est le numéro 7. Il vient de paraître aux éditions Artege, franc-maçonnerie et politique. Alors si on veut vraiment ne pas rester ignorant, s'informer, être curieux, lisez, n'hésitez pas donc à devenir lecteur. Vous évoquiez hier et vous parliez aussi de ces fraternels qui ne sont finalement les fraternels, c'est la franc-maçonnerie. Vous nous confirmez bien, Serge Abad Gaillardot?
Oui, enfin, c'est ce que disait un ancien président de cette fraternelle, qui est un organe secret agissant pour le compte des loges.
Alors il y a des chiffres que vous allez nous donner.
Oui, hein, j'ai des chiffres qui sont assez, je dirais, impressionnants, puisque je précise que je tiens ces chiffres de déclaration d'un président de fraternelle. Donc je ne les invente pas. Rapporté au nombre d'électeurs français, les francs-maçons représentent 0,34% des électeurs. Or, nous avons au Parlement 35% de francs-maçons. C'est-à-dire que en fait, vous avez 100 fois plus de francs-maçons que de profanes parmi nos parlementaires. Ce qui, finalement, me fait dire dans le livre, et je l'explique, je le détaille, que 0,34% des électeurs font voter des lois pour les 99,66% restants qui sont considérés comme des profanes, des ignorants, et qu'il convient de guider par la lumière maçonnique. D'autant plus que j'ai parlé la dernière fois de Bernard Saugé, il nous dit également, si j'arrive à jouer mon rôle, des parlementaires de droite et de gauche voteront ensemble. Donc je ne suis pas étonné aujourd'hui que les électeurs français ne puissent plus s'y retrouver lorsqu'on parle de droite et de gauche. Parce qu'en fait, finalement, ces francs-maçons parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, votent avant tout pour des idéaux maçonniques et non pas pour des idéaux politiques de droite ou de gauche.
Je vous donne quelques minutes pour relire un peu d'histoire.
Oui.
Et on revient dans le passé, on revient autour de la Révolution française. Et pourquoi pas deux mots aussi sur ce lien aussi avec 1793 et la guerre d'indépendance en Amérique. Est-ce que vous pouvez très vite donner quelques clés
de réflexion et de relecture, je vais essayer de le faire de manière très succincte. En fait, la franc-maçonnerie n'est pas, contrairement à ce qui est exprimé parfois par certains dignitaires, continuation des idéologies ou du moins des ésotérismes, la continuation directe des ésotérismes des Templiers, des constructeurs de cathédrales, Alain Boer et Roger Dachet, qui sont des deux éminents francs-maçons, l'expliquent dans un livre. En fait, tout cela, c'est de la légende. Malgré tout, ça continue à se dire en loge, et c'est une erreur. La franc-maçonnerie est née en 1717 à Londres, et elle a été créée par un certain nombre d'occultistes, d'alchimistes qui faisaient partie à l'époque de la Royal Society, dont par exemple Elias Ashmole, Isaac Newton, des Aguliers, etc. Enfin, il y en a plusieurs, je les cite dans mon livre. Et ce qu'on va voir, c'est que peu après 1717, la franc-maçonnerie va, comme on le dit, essaimer dans divers pays européens, notamment en France. À partir de 1721, il y a déjà une première loge à Dunkerque, et elle va essaimer dans divers pays européens de structures politiques monarchiques. Et se trouve à l'époque un territoire complètement vierge à tous les niveaux, y compris sur le plan de l'organisation administrative et politique, ce sont les États-Unis. Et ces États-Unis sont colonisés par les Anglais, qui sont à l'origine donc de la création de la franc-maçonnerie. Et on va avoir des francs-maçons, notamment français, dont par exemple le très célèbre Lafayette, qui vont se déplacer et participer à la guerre d'indépendance pour créer une sorte de laboratoire des idées maçonniques sur le plan politique. Il va y avoir ensuite un retour de ces gens sur le territoire français, qui vont porter des idées maçonniques et qui vont ensuite essayer de les développer dans le milieu politique. Et d'ailleurs, la franc-maçonnerie elle-même avoue que la création du Grand Orient, par exemple, en 1773, marque le retour au levier de commande de la maçonnerie française. Elle jouera un rôle de premier plan dans les événements de 1789, donc je n'invente rien. Il faut quand même noter que dans cette déclaration qu'on trouve facilement sur le site officiel internet du Grand Orient, il est indiqué que cette création marque le retour. C'est-à-dire que c'est un retour, c'est pas une intervention qui débute. C'est la continuation d'une intervention déjà souterraine. Et un autre auteur nous l'explique, on y reviendra tout à l'heure.
Donc tout était préparé d'avance, Serge Abad, au fond.
Oui, un auteur nous explique, et je le cite dans le livre, c'est un auteur qui est crédible, c'est un franc-maçon d'ailleurs, et journaliste, Louis Blanc, qui nous dit, il importe, je le cite, d'introduire le lecteur dans la mine au sens géologique du terme, que creusaient alors sous les trônes et sous les autels les révolutionnaires bien autrement plus profonds et agissants que les encyclopédistes. Parce qu'en fait, on voit, franc-maçonnerie le confirme, que la franc-maçonnerie met en œuvre les idées, sur le plan politique, les idées des Lumières, qui sont en fait le substrat philosophique d'une action politique qui va intervenir ultérieurement. De la même manière, on sait aujourd'hui que l'assassinat de Louis XVI a déjà été préparé en 1785 lors d'une réunion de plusieurs loges qui s'est tenue à Francfort, et un aristocrate faisant partie à l'époque de la franc-maçonnerie s'en est échappé et ensuite a même démissionné de la franc-maçonnerie. Il en est revenu complètement affolé et, je le cite, il explique, alors c'est le comte de Virieux en l'espèce, il explique: la conspiration est si bien ourdie qu'il sera impossible pour l'Église et la monarchie d'y échapper. Donc on voit bien que dès les prémices de la Révolution, et notamment sous la Révolution, eh bien, tout est préparé pour détruire la monarchie, pour décapiter Louis XVI et instaurer la République, commençant évidemment par la terreur et d'autres exactions, dont par exemple le génocide vendéen, dont un certain général Westermann, franc-maçon également, s'est rendu coupable en revenant et en écrivant à la Convention, me semble-t-il, « La Vendée n'existe plus, je l'ai écrasée sous les pieds de mes chevaux, y compris femmes, enfants, vieillards, etc. » J'ai visité personnellement une église dans laquelle ont été brûlés par ces armées de ce général des enfants, des bébés, des vieillards, et j'avoue que j'ai été assez surpris de constater que cette action n'a rien à envier à ce qui s'est passé avec la division Das Reich à Oradour.
On peut dire, au fond, et vous l'écrivez, la franc-maçonnerie depuis la Révolution française ne fut et n'est toujours qu'une manière politique de combattre l'Église entreprise par les loges à partir de 1789. Au fond, la politique pour la franc-maçonnerie est un des moyens et le but et la finalité. Serge Abad Gaillardot, si on entend un peu tous vos propos, et puis lisez ce livre, chers auditeurs, qui est bien sourcé. Le but est d'anéantir ni plus ni moins, de déconstruire totalement l'Église.
Alors, je tire une citation là également, puisque je crois que je prends énormément de références, parce que je suis très prudent lorsque j'affirme des choses, et je ne veux pas être dans la subjectivité personnelle. Ce sont deux francs-maçons très bien informés, et je pense d'éminents francs-maçons, qui nous disent « Depuis ses origines, la franc-maçonnerie est essentiellement une stratégie contre le trône et l'Église. Il n'y a pas de contradiction à porter à cela, d'autant plus que ces deux auteurs nous disent la Révolution se caractérise davantage comme un mouvement de déchristianisation. Bon, ça n'est pas étonnant, puisque l'obstacle à l'utopie maçonnique dans les lois, ou dans la société, eh bien c'est l'Église qui repose sur la foi et la raison, comme nous l'ont dit nos papes. La foi n'est pas un délire mystique, c'est une œuvre de Dieu, et en même temps c'est un comportement raisonnable. Et ça n'est pas étonnant non plus, puisque je démontre, et on en parlera certainement dans une autre émission, que la franc-maçonnerie est une religion. C'est donc une religion concurrente de l'Église qui cherche à remplacer différentes religions, dont le catholicisme, par une religion maçonnique universelle.
Alors donc, une religion maçonnique universelle, une religion maçonnique qui deviendrait au fond mondiale, et nous vous retrouvons bien sûr demain.
Eh bien, la franc-maçonnerie est par nature mondialiste, progressiste, réformiste, et elle a vocation à reprendre par exemple certains idéaux de la Rose-Croix, des Rosicruciens, dont elle est en partie issue, qu'on retrouve dans les manifestes rosicruciens Fama Fraternitatis et Confessio Fraternitatis, donc à l'époque des Lumières en 1664 me semble-t-il, et qui déjà prévoit l'anéantissement du trône de l'Église et un gouvernement universel mondialiste.
Eh bien, moi, je vous propose de vous retrouver, Serge Abad Gaillardeau, dès demain. Franc-maçonnerie et politique, c'est le titre de votre dernier livre, le numéro 7, qui est paru récemment aux éditions Artege. Un livre qui est bien sourcé, donc tout ce qui est écrit, c'est du sérieux. Serge Abad Gaillardeau, on vous retrouve dès demain à la même heure, et merci.